Alléluia. Thank you, Jesus. Nous sommes en train d'arriver à la fin de notre série d'enseignements sur l'Église qui a été bénie par cet enseignement. Amen. Moi, merci Seigneur. Glory to God. Je suis toujours plus bénie que quiconque par l'enseignement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, au moment de préparer, je suis bénie. Au moment de prêcher, je suis bénie. Et après, à ma maison, je suis bénie parce que Dieu continue à nous travailler. Ce que le Saint-Esprit a envie de faire, c'est de prendre la matière, la parole de Dieu comme matière pour nous façonner. Et au fur et à mesure que nous recevons une parole et que nous rentrons, nous continuons à y penser, à y réfléchir, à reprendre nos versets et nos notes et à méditer là-dessus. Le Saint-Esprit continue à agir. Amen. Amen. Il continue à travailler. Il continue à opérer de telle sorte que ce n'est pas uniquement ce que nous avons saisi le dimanche matin. Toute la semaine, il va continuer à travailler cette parole en nous et nous allons en faire matière également pour nos prières. Alléluia. Et demander que Dieu opère en nous ce qu'il a déclaré dans sa parole. Nous sommes en train donc de terminer cette série d'enseignements sur l'Église. Et nous avions parlé la dernière fois des outils que Dieu nous donne pour accomplir notre mission sur la terre. Nous avons parlé des capacités, des dons et des ministères par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit aujourd'hui est indispensable pour l'Église parce que c'est lui qui amène l'accomplissement de tous les bienfaits du sacrifice de Jésus sur la croix. Jésus est allé à la croix, il est mort, il est ressuscité. Et à cause de sa victoire sur la mort et sur le péché, il y a des bienfaits qui s'attachent à notre salut. Amen. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui agit aujourd'hui, qui nous permet d'être transformés pour être conformes à l'image de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui opère, qui nous donne la capacité de fonctionner comme nous sommes censés fonctionner en tant qu'enfants de Dieu. Jésus a parlé longuement sur la personne du Saint-Esprit, nous expliquant qu'il nous conduira dans toute la vérité, qu'il nous parlera, qu'il partagera les choses avec nous. Amen. Et il est fait, il continue à le faire. Donc, indispensable, ces capacités, ces dons, ces équipements que Dieu nous donne par son esprit, parce que Dieu nous équipe pour faire ce qu'il nous demande de faire. Mais il y a quelque chose d'absolument fascinant dans la parole de Dieu. C'est qu'il y a ce que Dieu fait à travers nous. Il y a la vie que nous sommes censés mener. Amen. Et nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous avons parlé des dons au verset 31. Il nous dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Donc, nous sommes censés aspirer à ces dons. Alléluia. Si vous ne les connaissez pas, prenez les enseignements sur les dons du Saint-Esprit. Prenez l'enseignement de la semaine dernière où nous parlons plus que des dons d'ailleurs. Nous avons parlé aussi des différentes capacités, des différents ministères. Amen. Chacun de nous a un ministère. Dites à votre voisin, tu as un ministère. Tu ne fais pas partie du mobilier de l'Église. Au contraire, tu es un participant actif dans le royaume de Dieu. Et Dieu a besoin de toi. Le royaume de Dieu a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Alléluia. Glory to God. Mais en regardant, nous avons vu l'importance de toutes ces capacités et ces dons. Mais alors nous sommes frappés au verset 31 de 1 Corinthiens chapitre 12, où il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Mais ensuite il continue en disant « Et je vais encore vous montrer une voie par excellence ». Donc, après avoir vu ses dons, après avoir vu ses capacités, ses ministères, il semblerait qu'il y ait encore autre chose. Alléluia. Amen. Autre chose qui soit extrêmement importante pour l'Église, pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Je vais vous montrer une voie par excellence. Donc au verset 13, il nous dit ceci: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc nous comprenons tout de suite que la voix par excellence dont il nous parle, c'est l'amour. Glory to God. Que l'amour est encore plus important que de parler en langue et d'interpréter. Que l'amour est encore plus important que de prophétiser. Ce qui ne veut pas dire que prophétiser n'est pas important, c'est très important. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y a des personnes qui sont passées au chapitre 13 et qui ont décidé d'évacuer le chapitre 12. Et qui ont décidé qu'on va s'aimer profondément, mais on ne va pas parler des dons. Parce qu'il y a une voie par excellence. Est-ce que vous savez, je suis venue ce matin avec un GPS qui semblait connaître une voie par excellence. Moi, j'avais vu une autre voie sur mon plan, mais il connaissait une voie par excellence et il m'a fait arriver. Alléluia! Ce qui ne veut pas dire que la semaine prochaine, je ne vais pas prendre la voie que j'ai vue sur mon plan, parce que c'est une très bonne voie également. Alléluia! Donc, saisissons tout ce que Dieu a à nous donner. Ne négligeons pas un au profit de l'autre. Nous avons vu l'importance de toutes ces capacités. C'est donc, mais il y a un contexte pour l'exercice des ministères. Il y a un contexte pour l'exercice des dons. Il y a un contexte pour le service. Et le contexte de cela, c'est l'amour. Et sans l'amour, tout cela n'a pas de sens. C'est pour cela qu'il dit que je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Est-ce qu'il y en a ici qui en ont transporté des montagnes? Jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, ils disent aussi, je ne suis rien. Ce n'est pas que, bon, je ne suis que peu de choses, je ne suis rien. Ce qui nous montre l'importance de l'amour, à quel point c'est fondamental pour la vie d'un enfant de Dieu et dans la vie de l'Église. Glory to God. Vous êtes toujours avec moi? Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc tous les sacrifices de ce monde, tous les efforts qui soient, ne servent strictement à rien si je n'ai pas l'amour. Alléluia! Donc nous commençons à comprendre que décidément c'est quelque chose d'important que d'avoir l'amour. Parce que l'absence d'amour invalide tout le reste. Wow! Dites wow! 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 Wow. Ça alors, cela ne me sert à rien. Au verset 4, il dit ceci: l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Mais nous allons y revenir dans quelques instants. Je vous demande de tourner avec moi dans Jean chapitre 17. Nous allons voir beaucoup de versets aujourd'hui. Donc, le fondement est posé. Le fondement, c'est que l'Église doit être caractérisée par un fait marquant par excellence l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres. Et que sans cet amour, tout le reste n'a pas de valeur. Tout ce que je peux faire, tout ce que je peux donner, ça ne sert à rien si je n'ai pas l'amour. Alors maintenant, beaucoup peuvent dire oui, mais quand même, ce qu'il faut comprendre, c'est que la substance même du royaume de Dieu, c'est l'amour. Lorsque nous parlons de Dieu, comment est-ce que Dieu se définit? Il nous a dit que Dieu est
amour.
Donc, nous parlons du fait que nous sommes des imitateurs de Christ. Nous allons voir à quel point nous devons être des imitateurs de Christ. C'est la première chose dans laquelle nous devons imiter Jésus, c'est dans l'amour. Je prie vraiment pour que Dieu travaille nos cœurs à chacun de nous et que nous devenions et que nous nous mettions devant le Seigneur pour qu'il nous transforme et nous change et que cet amour de Dieu puisse réellement être manifesté en nous et à travers nous. Alléluia! La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous voyons le premier caractéristique de l'amour, c'est que l'amour donne. Et Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu nous donne déjà l'exemple. Dieu est amour. Et Dieu a aimé le monde. Lorsqu'il parle du monde, là, il ne parle pas de l'Église. Alléluia. Il aime le monde. Il aime des personnes qui ne le connaissent pas. Il nous aimait quand nous étions misérables, malheureux, insupportables. Il nous aimait quand même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Quand il a donné Jésus, nous n'étions pas nés. De nouveau, l'Église n'existait pas. Il n'y avait même pas tous ces gens de par le monde entier qui sont là à adorer Dieu. Il avait un peuple. Et quelques prosélytes, et ça s'arrêtait là. Mais en dépit du fait que l'homme ne méritait strictement rien, il nous a envoyé son fils. Et ça va encore plus loin. Je vous ai dit de regarder dans Jean 17. Dans Jean 17, verset 22. Ça, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus. Je vous encourage à lire les derniers chapitres de l'épître de l'évangile de Jean. Ces chapitres sont pleins de leçons pour nous. Jésus a parlé longuement avec ses disciples avant de partir. C'est un peu comme son dernier testament. Les dernières paroles qu'il a déclarées, les dernières paroles qu'il a prononcées, merci, qu'il a prononcées sur terre. Et la prière qu'il a faite au Père, cette prière est tellement émouvante et tellement pleine de force qu'il a faite au Père avant de partir. Avant de partir, il a prié pour nous. Et au verset 22, qu'est-ce que Jésus dit au Père? Je leur ai, il parle de nous, il parle de, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire nous, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Jésus est en train de dire au Père qu'il devrait avoir entre eux la même relation qui existe dans la Trinité, l'unité. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et, écoutez bien, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous savez, on peut lire un verset comme ça et dire wow, « Amen, Hallelujah » et continuer. Mais lorsqu'on lit un verset comme ça, on devrait s'arrêter pour dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous aime comme il aime Jésus. Le Père nous aime comme il aime Jésus. Et donc, ça m'oblige à m'asseoir et à réfléchir. Je dis, mais Seigneur, c'est possible que tu éprouves pour moi le même amour que tu éprouves pour ton fils. Et ça sort de la bouche même de Jésus. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Parce que vous avez des gens qui sont là, dit oui, personne ne m'aime. Même des gens qui sont chrétiens depuis des années. Ou que les gens vont ici et là, oui, on ne m'aime pas, personne ne m'aime. Ou oui, moi, personne ne m'aime. Mais c'est une abomination qu'un enfant de Dieu puisse dire que personne ne m'aime. Jésus dit ici, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça, c'est la force de l'amour que Dieu a pour nous. Oh, nous pouvons passer nos vies égoïstes, centrées sur nous-mêmes, en cherchant qui va m'aimer, qui va m'aimer, qui va m'aimer. Et nous avons dans nos églises des gens qui sont là, qui m'aiment, personne ne m'aime, on ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Mais Dieu nous aime comme il aime Jésus. Et il suffit de nous attarder sur la parole de Dieu et de méditer, de nous donner la peine. Je dis bien nous donner la peine de méditer la parole de Dieu. Cela va régler beaucoup de bêtises que nous traînons pendant des années et des années. Et nous avons comme des boulets aux pieds parce que nous sommes en train de chercher dans la chair pour dire ah, qui va m'aimer. On me dit quelque chose au travers, je suis malheureux parce qu'on ne m'aime pas. Mais Dieu nous aime comme il a aimé Jésus. Nous sommes les gens les plus aimés qui soient. Nous sommes les gens les plus aimés qui soient. Amen. Nous sommes les gens les plus aimés qui soient. Et notre problème, c'est que nous sommes un peu trop éloignés de Dieu. Et nous cherchons à ce que d'autres nous donnent, ce que Dieu nous a déjà donné. Est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas de passage dans la parole de Dieu? Il nous dit de chercher à être aimés. Mais ce que nous avons lu, c'est que la parole nous demande, nous, d'aimer. Si la parole nous demande, nous, d'aimer, c'est qu'il nous a donné la capacité d'aimer. C'est que nous-mêmes avons déjà reçu l'amour. Il ne peut pas nous dire de donner ce que nous n'avons pas reçu. Si Dieu nous dit d'aimer, de donner l'amour, c'est qu'il nous l'a déjà donné. Et ce qui se passe, c'est que nous pensons que parce que nous n'avons pas vécu ou vu quelque chose, c'est que ça n'existe pas. Les choses spirituelles existent dans le monde spirituel. C'est à nous de libérer notre foi, de faire travailler un peu nos cœurs, notre tête, notre intelligence, prendre le temps, méditer la parole de Dieu, méditer, déclarer, confesser, jusqu'à ce que ça devienne réalité en nous. Et tellement de choses que Dieu a pour vous, pour ses enfants, nous passons à côté et nous culpabilisons les autres. Nous leur cassons les pieds incessamment, leur demandant de nous donner ce qui est déjà à nous. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, le béaba, c'est que Dieu vous aime. Mais il aime même le monde. Il faut quand même qu'il soit curieux pour ne pas nous aimer. Quand nous étions pécheurs, il nous aimait déjà. Ce n'est pas là où nous donnons notre vie à Jésus et nous essayons de le servir qu'il va décider qu'il a changé d'avis et ne nous aime plus. Il n'est pas caractériel, le Seigneur. Dieu se tient à sa parole et il est important que son Église commence à se tenir sur la parole de Dieu et pas sur nos émotions ou sur nos interactions les uns avec les autres, mais que sur la parole de Dieu. Alléluia! Un enfant de Dieu doit se donner la peine de méditer la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il comprenne à quel point il est aimé de Dieu. Et quand vous comprenez à quel point vous êtes aimé, là vous commencez à déverser l'amour. Dieu ne nous demande jamais, je le répète encore, de te faire de la brique sans... Alléluia! À chaque fois que vous avez un commandement dans la parole de Dieu, sachez que vous êtes en mesure d'obéir à ce commandement et de faire ce que Dieu vous dit de faire. Ne dites pas oui, mais moi, il n'y a pas de mais. La parole de Dieu s'applique à tous. Elle est vraie pour tous. Dieu nous a aimés comme il a aimé Jésus. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Regardez dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 9, nous dit ceci, c'est Jésus encore qui parle, là il parle à ses disciples. Ce que nous avons lu précédemment, c'est Jésus qui parlait au Père. Là c'est Jésus qui parle à ses disciples. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Dans Jean chapitre 15, verset 9, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Ah! Non seulement Dieu nous aime comme il a aimé Jésus, mais Jésus nous aime comme le Père l'aime. Alléluia. Alors maintenant, je ne connais pas votre histoire personnelle. Vous avez peut-être grandi dans une famille où personne ne vous aimait. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous avez donné votre cœur à Jésus, vous êtes entré dans une famille où vous êtes pleinement aimé. Où vous souffrez, vous avez une abondance d'amour. Mais c'est à chacun de nous d'aller creuser dans le cœur du Père. Il y a la réalité de la parole de Dieu, mais il y a la réalité de la parole de Dieu que nous expérimentons de façon personnelle. La parole ne change pas, la réalité ne change pas. Mais dans quelle mesure est-ce que vous l'expérimentez? La mesure dans laquelle vous la vivez, c'est la mesure dans laquelle vous vous appliquez à la méditer, à l'étudier, à la confesser. Dieu a dit à Jésus que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-y jour et nuit. Quelques versets par semaine ne suffisent pas pour vivre pleinement l'amour du Père. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Donc, à la lumière de ceci, nous pouvons comprendre 1 Corinthiens chapitre 13. Parce que souvent, lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, les gens sont là avec des yeux écarquillés pour dire, mais moi, je ne peux pas faire tout ça. Ah, mais c'est ça, c'est beaucoup demandé. Et c'est parce qu'ils n'ont pas ce fondement de l'amour du Père, de l'amour de Jésus pour nous, qui dépasse notre imagination et notre entendement, et qui ne se sont pas laissés baigner par cet amour de Dieu. Dans Luc, dans Marc chapitre 12, les gens sont venus voir Jésus. Et les docteurs de la loi voulaient le tester, lui poser des questions. Et lui ont demandé quel était le plus grand commandement sous la loi. Sous la loi. Pour vous dire que Dieu a de la suite dans les idées. Sous la loi. Quel était le plus grand commandement sous la loi? Et Jésus leur a répondu ceci. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alléluia. Sous la loi. Et rappelez-vous, la loi, il y avait beaucoup de règles. Il y avait beaucoup d'obligations. Et il y avait les 10 commandements. Et voici que Jésus, en répondant, leur dit, il y a un commandement, l'amour que vous devez avoir pour votre père. Et le deuxième, c'est l'amour que vous devez avoir pour votre prochain. Et il n'y a pas de plus grand. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il y a des choses que Jésus a dit à ses disciples avant de partir. Regardez avec moi dans Jean 13. Alléluia. Lorsque nous parlions, je crois, des dons, je parlais du fait que nous devons être des gens qui aiment de façon radicale, qui choisissent d'aimer, parce que c'est un choix d'aimer. C'est une décision d'aimer. Ce n'est pas un sentiment ou une émotion. Ou parce que je me sens bien, je vais aimer. Ou parce que la personne m'a fait du bien, je vais aimer. La parole de Dieu nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Dieu ne nous demande pas de nous occuper de l'autre personne. Il nous demande de nous occuper de nous. Ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas si cette personne m'aime, mais si moi je l'aime. C'est intéressant parce que Dieu ne prend pas l'habitude de s'asseoir avec nous pour discuter des travers des autres. Quand il veut bien nous montrer les vôtres, si nous voulons savoir. Donc Jean chapitre 13, au verset 34. Et cela fait partie de ce que Jésus disait à ses disciples pendant le dernier repas. Il leur a dit au verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Alors maintenant, il ajoute quelque chose d'intéressant. Parce que là, nous avons vu sous la loi qu'il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ensuite, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Et ce commandement nouveau, c'est ceci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, je vois un certain nombre de choses dans ce passage. Déjà, Jésus est en train de dire, cela montre que vous êtes mes disciples. Ce qui veut dire qu'au cœur même de l'Église, ce que nous devons y trouver, c'est l'amour. Alléluia. Et que nous sommes identifiables par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Lorsque les gens du monde nous voient, ils doivent se rendre compte, voici des gens qui s'aiment. Au point même parfois de les rendre jaloux. Ils doivent voir l'amour qui existe entre nous. Pas des chrétiens qui se cassent non-stop. Vous allez sur Internet, c'est n'importe quoi. Tel mouvement qui détruit tel mouvement. Des pasteurs sur YouTube qui s'envoient des malédictions. Des pasteurs sur YouTube qui sont critiques, qui disent des choses mais abominables les uns sur les autres. Et il y en a un, il fait son truc, il fait, oui, toi, évêque, machin. C'est les Américains, les évêques. Évêque, ceci, qui parle, et un autre qui répond. Réponse à pasteur en termes de réponse. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible. D'abord, un chrétien ne devrait pas faire ça, mais encore moins un serviteur de Dieu. Et ils se font des vidéos pour se critiquer sur Facebook, sur YouTube. Alors, c'est sûr que le monde, en regardant ça, n'est pas en train de dire, oh, qu'est-ce qu'ils s'aiment? Sans parler des chasseurs d'hérétiques, nous avons quelques mouvements un peu rigides qui trouvent que tous les autres sont des hérétiques. Et si vous googlez de certains serviteurs de Dieu, vous allez tomber sur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas commis l'adultère, il n'a pas volé l'argent de l'église. Non, pas du tout. Simplement, il enseigne que tu peux déclarer la parole de Dieu et recevoir la bénédiction de Dieu. Alors vous entendez, vous regardez comment les autres parlent de lui comme si c'était le diable lui-même. Et nous donnons ce spectacle au monde. Alors que Jésus nous dit que c'est le contraire. C'est par notre amour que les gens vont savoir que nous sommes ses disciples. L'Église doit être caractérisée par l'amour. Vous n'avez aucune raison d'en vouloir un frère ou une sœur. Vous n'avez aucune raison de casser un frère ou une sœur. Vous n'avez aucune raison de prendre votre téléphone et commencer à parler de Georgette. Aucune raison. Oh, ces choses-là sont tellement courantes dans nos églises qu'elles sont devenues une habitude. Et nous trouvons ça normal, c'est une abomination. Jésus nous demande de nous aimer comme lui nous a aimés. Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Ça, c'est encore un passage. Vous arrivez là, vous vous arrêtez net. Quoi? Nous sommes censés nous aimer comme tu nous as aimés. Allez, mais comment tu nous as aimés? Réfléchissez un peu à la manière dont Jésus nous a aimés. Pensez à la manière dont Jésus nous a aimés. Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Quelle dimension d'amour est-ce que Jésus a manifesté en notre égard? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Parce que l'amour, c'est l'action. Ce n'est pas uniquement la parole. C'est très bien de dire les paroles, je t'aime. Et si vous êtes marié, dites à votre épouse régulièrement que vous l'aimez et à votre époux que vous l'aimez, c'est important. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais je ne suis jamais dispo pour faire quoi que ce soit pour toi. J'aime le Seigneur, mais je ne suis jamais dispo. Ah oui, mais je n'ai pas le temps pour l'instant, je suis tellement occupée, je vais recommencer à aller à l'église dans 2 mois. J'aime le Seigneur. Ah nous, je sais que je faisais le service, mais là, j'ai autre chose à faire. J'aime le Seigneur. L'amour se traduit par des actions. Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Jésus nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Il est allé jusqu'au bout. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Car Jésus nous a tant aimés qu'il s'est donné. Mais des fois, nous ne nous rendons même pas compte. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui ne savent même pas que la parole de Dieu nous dit que nous devons nous aimer comme Jésus nous a aimés. Que Dieu nous demande et vous demande, vous. C'est curieux. Nous vivons une génération pour qui ces choses-là sont particulièrement difficiles. Parce que nous vivons dans une génération très égoïste et très centrée sur elle-même. Et c'est moi, moi et moi-même et moi encore. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu est constamment en train de se déverser, de donner, de nourrir, de bénir. Et il nous demande, nous, de fonctionner de la même manière. Parce que Jésus nous avait expliqué, nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. Mais nous le disons, mais est-ce que nous le croyons? Et c'est la même chose pour l'amour. Plus vous en donnez, plus vous en recevez. Je parlais avec quelqu'un au téléphone il y a un certain temps. La personne me disait à quel point elle était contente, embarrassée parce qu'elle était aimée. Elle était aimée en elle-même, en elle-même, en elle-même. Je souriais pendant qu'elle parlait. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'elle est aimée, certes, mais elle aussi, elle aime. Et que les gens, en général, réagissent par rapport à ce qu'ils reçoivent. Si vous donnez l'amour, vous recevrez l'amour. Et beaucoup de fois, quand les gens se plaignent pour dire « oui, ils ne m'aiment pas ici », c'est que franchement, vous n'êtes pas aimable. Je vous aime. Mais des fois, vous n'êtes pas aimable. Des fois, nous ne sommes pas aimables. Il y a des gens tellement désagréables. La moindre des choses, ouais, jamais satisfait, jamais content. Et après, ils se plaignent, ils ne m'aiment pas. Mais dis donc, il ne faut pas demander l'impossible. Mais nous sommes censés aimer, même les gens désagréables. Mais il ne faut pas rendre la tâche difficile pour les gens quand même. Alléluia, quelqu'un se reconnaît, il y a des gens qui me font la tête. Ne me faites pas la tête. Repentez-vous, c'est tout. Nous sommes censés aimer même les gens les moins aimables. Mais est-ce que vous savez que vous n'êtes pas censé faire exprès pour être désagréable? Simplement pour tester les gens, pour savoir s'ils vous aiment. Alléluia! Ce que vous dégagez va revenir vers vous. Est-ce que vous aimez? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime et qui n'est pas aimé. Il peut y avoir une période de votre vie où vous allez être persécuté, ça peut arriver. D'ailleurs, c'est salutaire, je peux vous en dire non. La persécution, souvent, est salutaire. Dieu va vous travailler. Glory to God. Vous n'êtes pas convaincu. Je n'ai entendu qu'une seule personne qui a dit Amen. C'est une personne qui n'a jamais été persécutée. On attend pour voir. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu a de grandes ambitions nous concernant. Il nous demande d'aimer. Et s'il nous demande d'aimer, c'est parce qu'il sait que aimer va nous bénir. Et donc, nous vivons dans une génération particulièrement égoïste. Vous savez, en tant que pasteur, je parle avec les gens, même des gens qui ne sont pas d'ici. Dès qu'ils savent que vous êtes pasteur, ils veulent tous vous parler. Et c'est bien. Et il y a une chose qui revient constamment, c'est l'égoïsme. C'est moi, et moi, et moi, et moi. Et c'est ça le trait de notre génération. Quelqu'un nous a vendu le mensonge comme quoi si tout se passait comme nous voulons, si tout le monde faisait ce que nous voulons, si tout le monde était à notre service, nous serons heureux. C'est faux. Alléluia. C'est faux. Vous ne serez pas heureux. Simplement que tout le monde est d'accord avec vous. Tout le monde fait ce que vous faites. Tout le monde vous cire les bottes. Il vous apporte. Comment se fait-il que tous ces milliardaires qui peuvent se payer toutes sortes de choses, les gens font tout pour eux, se suicident. Et que si simplement ils m'aimaient un peu plus, je serais bien. Si simplement ils me suivaient un peu plus, je serais bien. Non, 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 non. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien? C'est le degré d'amour que vous donnez. Et vous n'êtes même pas obligé de recevoir de l'amour en retour des personnes envers qui vous manifestez l'amour. Mais le Dieu de gloire, qui voit votre obéissance à son commandement, il va faire en sorte que vous soyez constamment comblés. Mais comblés, Dieu a un réservoir d'amour inépuisable. Et il n'attend qu'à pouvoir le déverser sur ses enfants, sur les gens qui lui obéissent. Si vous donnez de l'amour, est-ce que vous savez que Dieu va en déverser sur vous? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc, vous lui êtes très utile. Il va faire en sorte que vous soyez constamment approvisionnés. Alléluia! Constamment, au lieu de vous fâcher, oui, il ne m'a pas salué. C'est incroyable. Il y a des gens qui quittent des églises parce que le pasteur ne leur a pas dit bonjour. Mes enfants. Oui, ça fait 5 fois que je suis allée, j'ai dit que je vais être môme. Jusque-là, il n'a pas eu une conversation avec moi. Mais il se prend pour qui? Oh! C'est à se demander de quoi sont faits les chrétiens du 21e siècle. Nous avons un héritage incroyable. Un homme qui a été lapidé, qui a été laissé pour mort, qui a subi toutes sortes de choses et qui s'est relevé à chaque fois et qui continue à dire « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Et nous, nous fâchons parce qu'on ne nous dit pas bonjour. Mais montrons-nous un peu dignes du salut que nous avons reçu. Dieu nous demande d'aimer de façon radicale. Je vous assure, vous ne pouvez pas trop en donner. Les gens qui vous font du mal, qu'est-ce que vous faites? Bénissez-les. Ils pensent que vous allez les gifler et vous les serrez dans vos bras. Ils disent, mais il a peut-être un couteau ou un poignard, je ne sais pas, attention. Non, 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 pas de poignard, pas de couteau, que de l'amour. L'amour, c'est ce qui montre notre force. Si vous êtes capable d'aimer, vous êtes fort. Vous montrez que votre confiance est dans le Seigneur. Que vous ne vous faites pas vengeance vous-même parce que la vengeance appartient à l'Éternel. Et croyez-moi, quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu et qui aime de façon radicale ne sera jamais en bas. Dieu va y veiller. Dieu va y veiller. Dieu va veiller sur vous. Dieu va vous bénir. Il va vous entourer. Ses anges vont vous entourer parce que vous libérez l'atmosphère du royaume de Dieu. Et l'atmosphère du royaume de Dieu va vous entourer. Vous allez vivre une vie d'excellence. Et les gens vont vous demander, mais tu te shootes à quoi? Il y a de la puissance dans l'amour. Il y a de la puissance dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a de la puissance dans le pardon. Quand vous pardonnez, vous êtes libéré. Vous êtes libéré et les gens sont encore là. Il y a des fois, les gens vous énervent et après ils sont là. Ils attendent pour voir comment vous allez réagir. Vous êtes rempli de joie parce que vous avez pardonné, parce que vous aimez. Point. C'est fini. Quand vous aimez, les gens perdent leur pouvoir de vous affliger. Alléluia. Si vous êtes quelqu'un de rancunier, Satan va toujours s'arranger à ce que quelqu'un vienne vous casser les pieds et vous faire quelque chose de désagréable parce qu'il sait que cette rancune va vous ronger pendant des mois et des mois et pendant ce temps-là, vous serez inefficace pour le royaume de Dieu. C'est ce qui fait que beaucoup d'églises, même avec beaucoup, beaucoup de membres, n'arrivent pas à faire grand-chose pour le Seigneur. Parce qu'il y a des histoires. Il y a un tel m'a parlé mal. Et le pasteur m'a dit ça. Et le frère, un tel est un hérétique. N'importe quoi. Un véritable panier à crabes. Ça, ce n'est pas l'église. Jésus nous dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Et j'ai cherché, mais je ne trouve pas de verset où Jésus dit, exigez qu'il vous aime. Et nous sommes toujours confrontés à des gens, tu n'aimes pas. Et alors, qu'est-ce que ça change? À la couleur de tes yeux. Qu'est-ce que ça change à la couleur de tes cheveux que je t'aime ou que je ne t'aime pas? Qu'est-ce que ça change lorsque tu sais que Dieu t'aime comme il aime Jésus?
Alléluia.
Lorsque tu sais que Jésus t'aime comme le Père l'a aimé. Alléluia. Soyez des gens qui sont des outils entre la main de Dieu pour libérer l'amour sur les gens. Et pas ceux qui sont là en train de critiquer, de casser, de juger, de mesurer le degré d'amour dans l'église. Cette église, ils n'aiment pas les gens. Je suis arrivée, je pensais que l'amour était là, mais maintenant c'est là. Et qui t'a érigé juge d'amour dans l'église? Combien tu en donnes toi? Si on devait mesurer toi, il n'y a même pas de place. Tu seras au sous-sol. Nous aimer passionnément. Aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Pas juste l'aimer le temps d'une bénédiction. Alors on devient très zélé. Toujours les premiers à l'église. Ah, Seigneur, j'attends ma bénédiction. J'attends. Oh, Seigneur, je t'aime, j'attends. Et quand la bénédiction arrive, frère, on ne te voit plus. Oh, mais je vais revenir. Je vais revenir. Non, je suis toujours avec Dieu. Il y a un pasteur qui m'a parlé d'une femme qui voulait un enfant. Elle était mariée pendant de longues années et elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle était malheureuse et tout. Donc, elle a commencé à venir à l'église. Ils ont prié, elle a eu un enfant. Peu de temps après, elle a disparu. Et il a revu la femme et il a eu l'audace de lui dire qu'elle allait revenir parce qu'elle avait besoin d'un deuxième enfant. Dire que nous n'avons rien compris à la parole de Dieu. Aimer l'Éternel. Lui être fidèle, le servir, participer à bâtir son église sur la terre. Nous aimer comme Dieu nous a aimés. Nous aimer radicalement veut dire savoir se pardonner. Alléluia. Savoir aussi accepter, comme j'avais dit la semaine dernière, nous donner la permission aux uns aux autres d'être imparfaits. Souvent, lorsque les gens viennent me parler des travers de personnes dans l'église, je souris parce que je me dis, s'ils les connaissaient comme je les connaissais, ils les détesteraient encore plus. Là, tu penses ça d'elle? Elle est pire que ce que tu imagines. Je ne leur dis pas, il ne faut pas penser ça. Je dis, c'est tout ce qu'ils voient, c'est tout ce qu'ils énerve. Ah, s'ils savaient. Alléluia! Quelle est notre valeur en tant qu'enfant de Dieu? Si nous ne sommes pas capables d'aimer les gens qui ne sont pas aimables, combien même devons-nous aimer des gens suprêmement aimables que nous sommes à Abba House? Amen.
Amen.
Glory to God. Il n'y a qu'une seule personne qui croit à cette déclaration de foi. Moi, je la crois. Amen. Maintenant, je vais vous demander de regarder dans Jean chapitre 15. Nous devons nous aimer les uns les autres. Mettez sur vous l'exigence d'aimer. Ne passez pas votre vie à chercher à être aimé. Sachez que si vous aimez, vous serez aimé. Mettez sur vous l'exigence de faire votre part dans cette relation avec Dieu. Nous sommes constamment en train de voir, est-ce que Dieu m'aime? Je ne me sens pas aimé. Je dis, est-ce que je suis aimé? Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Ça, c'est ma nièce. Vous connaissez l'histoire de ma nièce? Non. Beaucoup de chrétiens sont comme ma nièce. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ma nièce, n'est-ce pas? Ah, ma nièce, elle aime attirer l'attention. Donc, ma nièce, elle va venir. Elle n'a rien. Ou elle a demandé quelque chose et j'ai dit qu'elle ne peut pas l'avoir. Encore un autre gâteau, elle ne peut pas l'avoir. Et moi, je suis passée à autre chose et ma nièce qui vient à côté de moi. Ah! Et je suis là, je fais mes affaires, je suis dans mon bureau. Après, elle se frotte contre, vous savez, la coudoir de ma chaise. Elle regarde pour voir si je la regarde. Beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Pour rien. Oh, pourquoi elle m'a dit ça? Elle m'aime pas. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère. Ça va, frère? Oui. Elle a dit, sœur, alors ça va? Oui, ça peut aller. Enfin, dans cette église, je dis, bon, écoutez, ça peut aller. Amen. Pas la gloire. Dieu est là. Il m'en soutient. Si ton soutenu ne sera pas dans cet état-là. Alléluia. Arrêtons d'être hypocrites, soyons vrais. Amen. Arrêtez de jouer comme ma nièce. Vous n'avez strictement rien. Vous n'avez pas de problème d'amour. Si, vous n'aimez pas. L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs. Ce qui veut dire qu'il y a un réservoir d'amour en vous dont vous ne vous servez pas et que vous devez commencer à utiliser. Amen. Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas, oui, mais moi, je n'ai pas d'amour. Nous avons tous de l'amour. Certains l'engrangent et ne s'en servent pas. Certains déversent et Dieu continue à remplir. Amen. Soyez comme ceux qui déversent. Et Dieu continue à remplir. Donc, aimez Dieu et nous aimer les uns les autres. Ne pas chercher à voir, elle m'a fait ça, elle m'a dit ça. Décider de pardonner, d'oublier et d'aimer de façon radicale. Amen. Je vous ai parlé souvent d'un serviteur de Dieu qui avait comme habitude, lorsque les gens disaient du mal de lui, parce que les gens disaient beaucoup de mal de lui, lorsque les gens disaient du mal de lui, il s'employait pour aller leur faire un cadeau. Juste, c'était sa moyen de faire quelque chose pour les bénir et pour libérer l'amour vers ces personnes. Et j'ai dit ça plusieurs fois, il y a une personne ici qui l'a fait, qui avait eu des problèmes avec quelqu'un dans l'église et qui a décidé d'aller leur faire un cadeau. Et la personne m'a dit, après, je me suis rappelé, tu sais, le serviteur dont tu as parlé, leur a fait un cadeau et figurez-vous que ça a tout changé. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Pourquoi? Parce que non pas parce que ce cadeau était d'une valeur extraordinaire, mais simplement parce qu'à travers ce cadeau, elle a exprimé son amour. La personne a exprimé son amour. Elle pouvait très bien réagir pour dire, oui, c'est quoi? N'importe quoi. Et mobiliser tous ses amis au sein de l'église pour dire, non, elle a décidé d'exprimer l'amour et ça a tout changé entre eux. Alléluia. Donc, nous sommes en train de voir Jean chapitre 13. Est-ce que vous y êtes? Jean chapitre 15, pardon. Il y a quelque chose de puissant dans ce passage que nous devons retenir. Jean chapitre 15. Nous avons lu le verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc Jésus nous dit, demeurez dans mon amour. Je vous ai aimé, alors restez dans mon amour. Continuez à jouir de mon amour. Continuez à vivre dans mon amour. Continuez à bénéficier de mon amour. Lorsque quelqu'un vient dire, moi, je ne suis pas aimé, dites, mais bien sûr que tu es aimé, demeure dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Vous pouvez devenir esclave de quelqu'un qui a besoin que vous lui prouviez tous les jours que vous l'aimez. Alors, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont te regarder. Tu m'aimes?
Je m'aime.
Ça n'a rien à voir et de faire des bêtises. Et tous les jours, vous devenez esclaves parce qu'il faut toujours... On parle, en anglais, on parle des gens qui sont high maintenance. High maintenance women. High maintenance men. Toujours besoin, ah oh, je t'adore, deux fois, trois fois, cinq fois par jour, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, ouf, quand même, il t'aime, c'est bon. Alors, elle rentre en retard à la maison, tu m'aimes toujours? C'était 10 minutes de retard. C'est pas dramatique. Toujours besoin qu'on lui tienne. Toujours. Non, 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 non. Et c'est pareil dans l'église. High maintenance. Si je n'ai pas le pasteur au téléphone une fois par semaine, c'est qu'elle ne m'aime pas. J'y vais plus. Si j'appelle deux fois, je n'arrive pas à la voir, c'est qu'elle ne m'aime pas. Oh, chill. Du stress. Alléluia. Je ne vous dis pas. Thank you, Jesus. Nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. Vous avez un réservoir d'amour en vous. Libérez-le. Nous maîtrisons nos pensées. Nous maîtrisons nos attitudes. Parce que dès qu'il y a quelque chose, sachez que vos pensées vont commencer à bouillir. Que votre chair et l'autre vont venir vous dire tout le mal du monde sur un tel, vous dites, oui, tu sais, c'est ce que tu devrais faire, tu ne devrais plus lui parler. Comme ça, il va voir. Et vous méditez sur ça. Ouais, Satan, t'as raison, t'as toujours raison. Ouais, je ne vais plus lui parler. C'est ça, elle va voir, elle va comprendre. Elle va savoir de quel bois je me chauffe. Chauffez-vous du bois de l'amour. Alléluia. Chauffez-vous du bois de l'amour. Donc, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Donc, je dis, je veux demeurer dans l'amour de Jésus. Et comment demeurer dans l'amour de Jésus? C'est en gardant ses commandements. Et nous venons de voir quel est le commandement nouveau qu'il nous a donné. Est-ce que vous voyez le lien qui est en train d'être fait ici? Jésus nous donne comme commandement de nous aimer comme il nous a aimés. Et ensuite, il nous dit de demeurer dans son amour à lui. Nous devons vivre pleinement son amour. Il a dit, pour vivre pleinement son amour, nous sommes censés garder ses commandements. Est-ce que vous suivez la logique? On continue. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus dit, faites comme moi. Mon Père m'a aimé. J'ai gardé ses commandements. Et parce que j'ai gardé ses commandements, j'ai demeuré dans son amour. Si Jésus avait désobéi au Père sur la terre, il n'aurait pas demeuré dans son amour. Mais il dit, si vous voulez demeurer dans mon amour, continuez à vivre pleinement mon amour, parce que c'est de ça que nous avons besoin. Mm. C'est vrai que c'est bien d'être aimé par un tel. Je veux bien qu'elle aime, c'est même. Hein? Mais je veux bien qu'elle m'aime, c'est magnifique. Mais plus important encore que son amour à elle, c'est l'amour de Jésus. Et je veux demeurer dans l'amour de Jésus. Et Jésus me dit que si vous voulez demeurer dans mon amour, faites comme moi. Si vous voulez demeurer dans mon amour, gardez mes commandements. Mais quels sont ces commandements donc? Que si je les gardais, je vais demeurer dans l'amour de Dieu. Lisez avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Jésus est en train de dire, voici ce que vous devez faire pour que vous puissiez demeurer dans mon amour. Que vous puissiez vivre pleinement l'amour de Dieu. Voilà ce que vous devez faire. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus est en train de nous expliquer que lui donne sa vie pour nous, c'est la démonstration de son amour pour nous. Et maintenant, il nous dit, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et ce qui est magnifique, c'est que le fait de nous aimer les uns les autres, c'est ce qui va nous aider à demeurer dans l'amour de Dieu. Wow. Alléluia. Wow. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Wow. C'est très important. En dépit des cris d'Obéa, vous suivez quand même. Glory to God. C'est mathématique ici. Jésus dit, je vous aime. Demeurez dans mon amour. Vivez pleinement mon amour. Soyez entourés de mon amour. Soyez remplis de mon amour. Soyez encouragés par mon amour. Et pour que vous puissiez vivre pleinement dans mon amour, vous devez obéir à mes commandements, comme j'ai fait avec mon Père. Et voici le commandement auquel vous devez obéir pour vous-même pouvoir vivre mon amour, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Alléluia. Donc, il est plus avantageux pour moi de vous aimer que de vous détester. Mathématiquement, je gagne à vous aimer. Je ne gagne rien à ne pas vous aimer. Mathématiquement, MC gagne à m'aimer. Elle ne gagne rien à ne pas m'aimer. Alors, même si je suis désagréable, elle gagne à m'aimer quand même. Alléluia. Et quand elle m'aime, elle demeure dans l'amour de Dieu et elle est aimée. Même si l'amour ne vient pas de moi en retour, elle est quand même comblée d'amour. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Si vous me suivez, ça va changer votre vie. Ça va changer toute votre expérience chrétienne et ça va changer notre église. Lorsque nous devenons protagonistes, que nous sommes ceux qui donnent et pas ceux qui s'attendent à recevoir. Quand vous devenez actifs à déverser l'amour, à chercher le moyen d'exprimer l'amour au lieu de chercher le moyen d'en recevoir. Jésus nous dit que si vous aimez les autres, vous allez demeurer dans mon amour. Et ce dont nous avons besoin, c'est de demeurer dans l'amour de Jésus. Parce que cet amour-là est parfait. Cet amour-là comprend tout, voit tout, saisit tout, encourage en tout et où que vous soyez, Jésus est là. Je peux vous aimer autant que vous voulez, mais quand vous allez partir en Chine, je n'y saurai pas. Et il se peut que tout d'un coup, il y ait une tempête et que les lignes téléphoniques ne fonctionnent pas et que vous n'ayez même pas accès à Internet, que vous n'ayez pas accès ou que mon mobile ne fonctionne pas. Ça fait un mois qu'il ne fonctionne pas. Alléluia, vive la technologie. Ou que mon mobile ne fonctionne pas, vous n'êtes pas en mesure de me joindre pour m'entendre dire « Oh, ma petite MC de mon cœur, combien je t'aime !» Mais vu que vous demeurez dans l'amour de Christ, vous êtes là où vous êtes seul, comblé d'amour. Alléluia. Et parfois, lorsque nous vivons quelque chose, nous n'arrivons pas à joindre quelqu'un, nous commençons à leur en vouloir. Ouais, tu n'étais pas là quand j'avais besoin de toi, mais Jésus était là. Il faut demeurer dans son amour. Alléluia. Est-ce que vous allez commencer à aimer? Aimer de façon radicale. Et dans cette église, nous avons de grandes ambitions. Nous voulons bâtir des églises. Ce qui veut dire que vous allez tous appeler à être des leaders. Et quand vous êtes un leader, vous devez savoir aimer les gens. C'est là où vous allez comprendre ce que je disais sur ma nièce, sur le comportement de certains individus dans l'église. Et vous devez savoir les aimer malgré tout. Alléluia. C'est très important. Et donc, commencez à vous entraîner dans l'amour. Amen. Ne me faites pas le cadeau cette semaine, sinon je vais penser que c'est parce que vous n'êtes pas content de moi. Et s'exercer dans l'amour. De telle sorte que quand vous allez commencer à vous occuper des gens, on va commencer des cellules par exemple, les gens qui vont conduire des cellules. Je sais déjà qu'il y aura des... Oh, pasteur, oh, c'est ce qu'on t'elle a fait, c'est pas possible. Oh, vivement qu'il revienne plus parce qu'il a... Et vous savez ce que je vais vous dire? C'est l'occasion de manifester l'amour. Alléluia. Mais ça va dans les deux sens. Aimez les gens que vous conduisez, aimez aussi les gens qui vous conduisent. Est-ce que vous savez que c'est important d'aimer vos leaders? Si vous n'aimez pas un leader, vous n'allez pas recevoir ce qu'il a. Vous serez là en train de critiquer ses gestes. Ah, parce qu'elle bouge trop. J'ai regardé en prophète sur Internet l'autre jour. Il est resté sur place pendant 1h30. Pourquoi il a dû bouger tout le temps? Vous êtes dans une cellule et la personne qui conduit fait quelque chose. Ouais. Alléluia. Et au moment de prier, votre voix est plus forte que les autres parce que vous allez lui montrer comment prier. Quand les gens venir à la réunion de prière, élevez la voix plus fort que les autres. Calme. Ça, ce n'est pas l'amour. Et quand vous aimez les gens qui vous conduisent, vous leur facilitez la vie. Vous faites le nécessaire pour que leur travail ne soit pas désagréable. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Obéissez à vos conducteurs, parce que comme ça, leur travail ne sera pas une charge et un fardeau. Manifestez l'amour. Dans quelle mesure? Pensez-y. Et souvent, nous sommes en train de dire, « Oui, le pasteur ne m'aime pas. » Mais est-ce que vous aimez le pasteur? Et de quelle manière est-ce que vous manifestez votre amour? Est-ce que, en toute honnêteté, vous êtes une corvée pour elle ou vous êtes une joie? Ou pour lui? Vu que je ne parle pas que Jean de Abba House. Il y a des gens qui vont écouter cet enseignement sur Internet. Alléluia. Ça s'applique à vous aussi, dans votre église. Thank you, Jesus. Alléluia. Nous devons nous faciliter la vie les uns les autres. Et ça, c'est l'amour. Parfois, j'ai vu des gens dans le service. Vous êtes censés faire quelque chose ensemble. C'est pour vous dire que l'amour, ce n'est pas simplement un sentiment que j'ai. C'est toute ma manière de me comporter envers les autres. Vous êtes censés faire quelque chose ensemble et la personne ne vous contacte pas. Et vous savez que la personne a besoin de vous et vous ne contactez pas la personne non plus. Et je dis alors, oui, elle ne m'a pas appelé. Non, mais elle ne m'a pas appelé. Tu pouvais l'appeler toi. Qu'est-ce que tu sais? Tu sais ce qui est en train de se passer? Peut-être qu'elle est débordée, elle ne sait pas trop où mettre la tête, elle est dans la confusion. Elle a quand même besoin de ce que tu sais faire. Pourquoi toi, tu ne l'as pas appelé? Ah oui, mais bon, c'est elle qui doit m'appeler. Ça, ce n'est pas l'amour. Quand on aime, on se donne. Quitte à ce qu'elle dise, bon, arrête de m'appeler là. Quand j'aurai besoin de toi, je t'appellerai. Il vaut mieux ça que d'être là, dit. S'ils ont besoin de moi, ils vont me contacter. De toute façon, je sais qu'ils ne pourront pas terminer ça sans que moi j'ajoute ça. Donc. Ils sont obligés de m'appeler. Et là, ils vont comprendre à quel point je suis important ici. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour se manifeste dans le service, dans notre manière de servir, dans notre manière de faire et d'être les uns avec les autres. Soyons agressifs dans l'amour. Que nous soyons obligés de dire, relax, tu m'envahis un peu là. Et quand quelqu'un vous dit ça, soyez content, soyez pas vexé. Quoi? Je ne l'appelle plus jamais. Non, soyez content, dites, ah, merci Seigneur, ça veut dire que j'ai un peu exagéré du côté de l'amour. Alléluia. Amen, silence radio. Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ce que Jésus veut, c'est que notre joie soit parfaite. Mais est-ce que vous avez constaté ce que Jésus nous a dit de faire pour que notre joie soit parfaite? Il nous a dit d'aimer. Vous vous rendez compte? C'est un changement total dans notre manière de penser. Nous sommes convaincus que si nous sommes aimés des autres, notre joie sera parfaite. Mais Jésus nous dit ici que pour que notre joie soit parfaite, nous devons demeurer dans son amour. Et pour demeurer dans son amour, nous devons aller aimer les autres. Et c'est quand nous aimons les autres, nous demeurons dans son amour, et là notre joie est parfaite. Votre bonheur ne réside pas dans ce que quelqu'un va faire pour vous, mais dans ce que vous allez faire pour quelqu'un. Retenez bien cela. Tous ceux qui aiment être heureux, comme moi, j'aime la joie. Je suis addicted to joy. J'aime la joie. J'aime la joie de Dieu. J'aime la joie du Saint-Esprit. J'aime pas être malheureux. J'aime pas du tout. Si je sens que, qu'est-ce que c'est que ça? Au nom de Jésus, alléluia. Est-ce que je fais quelque chose? Je règle bien mes problèmes. Je demande pardon à Dieu. On évacue et la joie revient. Ne prenez pas l'habitude d'être malheureux. Et bien, les gens pensent qu'en étant malheureux, ils peuvent manipuler les autres. Votre malheur ne vous manipule pas. Je vais regarder où la pauvre n'a toujours pas appris à aimer. Il pense qu'en tirant une tranche pendant la prédication, en regardant le pasteur de travers, il va voir que je ne suis pas contente. Et je vois que, oh, le pauvre, il a toujours pas appris à aimer. Thank you, Jesus. Revelation, Lord, de l'amour de Dieu qui a déjà été déversé dans son cœur. Toutes ces tentatives de manipulation que nous avons entre nous, ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Est-ce que je peux parler vrai ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Il y a trop de mal. Soyons vrais dans l'église. Aimons-nous sincèrement. Arrêtons d'essayer de nous manipuler en faisant la tête, en ratant en culte. Je ne suis pas là, elle va comprendre que je ne suis pas contente. Franchement. Thank you, Jesus. Je prêcherai à cette chaise si besoin est. Moi, ma tâche, ce n'est pas de veiller à ce que vous soyez content et que vous soyez là. Ma tâche, c'est de veiller à ce que j'annonce la parole de Dieu. Amen. Si je dois l'annoncer à la chaise, je l'annoncerai à la chaise et j'aurai fait mon travail. Amen. Thank you, Jesus. Alléluia. C'est bien d'aimer, hein? Quand vous aimez, vous êtes libre. Vous n'avez pas tout ce poids de... Ça fatigue d'être rancunier. Ça vous épuise mentalement. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait que votre bonheur ne peut pas dépendre de l'amour des autres. Il ne vous a pas créé pour dépendre de quelqu'un pour être heureux. Il vous a créé pour dépendre de lui. Thank you, Jesus. Alléluia. Soyons vrais. Arrêtons de nous manipuler les uns les autres. Ça, c'est démoniaque. Faites ce qu'il faut pour bénir, abonder dans l'amour, déverser la grâce sur les autres, que votre cœur soit pur, que vos pensées soient pures, que vos paroles soient pures. Abonnez-vous à la pureté. Alléluia. C'est beaucoup plus sympathique que d'être constamment tourmenté. Je jette ma fesse et va voir. Et c'est Boris, c'est quoi ça? Oh, cette église, c'est oui. Je vais lui dire. Après, il est venu un peu. Pasteur, c'est ça que... Bon, je sais pas ce que tu penses, mais... Enfin, moi, je trouve que par rapport à la louange, une petite insinuation, histoire de dire, vire cette fille. Soyons des chrétiens. Amen. Soyons des vrais chrétiens. Alléluia. Qui est d'accord avec moi ce matin? Amen. Soyons des vrais chrétiens. Qu'il n'y ait plus de ténèbres en nous. Toutes ces manipulations, ces manigances, ces petitesses, ces histoires à n'en pas finir. C'est du domaine du diable. Ce n'est pas du royaume de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. C'est incroyable, des gens qui vont à l'église, alléluia, bénissent à l'Éternel, et ça danse, et ça chante, et ça raconte n'importe quoi. J'aime l'Éternel, frères et sœurs, j'ai un témoignage, Dieu est bon! Et après tout ce cinéma, on rentre à la maison, festin. On va dévorer les frères et sœurs. À commencer par le pasteur. Parce que vous comprenez, c'est le pire. Aimons-nous les uns les autres. Péchons par un excès d'amour. Essayons de voir le bien les uns dans les autres. Oh, thank you, Lord. Quand on aime, il y a l'unité. Regardez, Jésus priait afin qu'il soit un. Qu'est-ce que ça nous coûte d'être un? Juste que nous nous décidions de nous aimer. Et d'arrêter d'essayer de nous faire vengeance, d'essayer de faire des manigances, de nous manipuler les uns les autres. C'est fou ce que les gens essaient de manipuler les pasteurs. Avec des émotions, des sentiments, avec des... Je ne suis pas allée pendant 2 semaines, elle va voir. Oh, mais franchement. C'est qu'ils ne me connaissent pas encore. Oh, soyons vrais. J'ai tellement envie de pouvoir vous communiquer la vie que nous avons en Dieu lorsque nous sommes vrais. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand nous apprenons à aimer, à pardonner, à toujours recommencer et avancer avec Dieu, en gardant nos yeux sur notre Père, en demeurant dans son amour, il y a une vie de Dieu qui est déversée en vous. Quelque chose que personne ne peut vous donner. Personne. C'est bien, je sais ce que c'est de se sentir aimé. L'autre semaine, j'avais eu une petite intoxication alimentaire et ça fait toute une histoire de ma famille. Parce que j'avais eu ma mère au téléphone le samedi matin alors que j'étais déjà bien. Elle m'avait simplement dit qu'il fallait que je me repose. Je me reposais. J'avais encore besoin de force. Mais ce vendredi était vraiment wouh. Ma petite chérie ici présente était avec moi. J'étais boum. Et le Saint-Esprit a fait sortir, mais wow, je commençais à prier, mais je n'avais pas la force pour ça, c'est sorti de Dieu. Dieu sait nous relever. Le samedi matin, j'ai eu ma mère au téléphone, qui a appelé, elle était avec mon frère, je leur ai parlé. Je lui ai dit, bon, que je ne parlais pas longuement, j'allais encore me reposer parce que j'avais une intoxication alimentaire. Elle a appelé ma soeur aux États-Unis, elle lui a dit, il se trouve que dimanche, tous ont appelé. Mais dimanche, je n'étais pas là. Dimanche, j'étais venue au culte. Après, je suis partie en Belgique. Et ils ont commencé à s'inquiéter. Mes deux frères appelaient, ma soeur appelait. Et mon frère qui est ici, il a eu le serment de sa vie. Mais elle est où ta soeur? Il s'est mis à appeler la puis Antonio. Mais où elle est, ma soeur? Ma sœur a appelé Flo, où est-ce qu'elle est? Et le fait de savoir que j'avais été malade, il pensait qu'il y a une tatox. Et elle n'est pas là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et je suis rentrée après. Et j'ai écouté leur message. C'était très drôle. C'est pas vrai. Mais en même temps, ça me faisait chaud au cœur. Et un de mes frères, il a dû dire ça à moi, dit, je t'aime, tu vois, je t'aime, prends soin de toi, je t'aime, je vais essayer encore de te joindre. Et en plus, mon mobile ne marche pas, donc il ne pouvait pas me joindre sur le mobile. Je t'aime. Donc oui, c'est merveilleux lorsque les gens nous aiment. Et soyons donc des gens qui donnent cette merveille à d'autres. Alléluia. Qui permettent aux autres de se sentir aimés. Et quand vous êtes de ces gens-là, Dieu va faire en sorte que vous vous sentiez aimés. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Jésus nous dit. Qu'il y ait un changement de perspective. Je veux voir quelque chose de nouveau au sein de cette assemblée. Je vois des gens qui s'aiment de façon radicale. Je vois des gens qui se pardonnent de façon radicale. Je veux que même si je suis au courant de quelque chose, au moment où je veux reprendre, la personne dit, c'est pas nécessaire parce qu'on a réglé le problème, il n'y a pas de souci. C'était juste un petit quelque chose. On a réglé ça, c'est bon. Amen. J'ai amené quelqu'un d'idée il n'y a pas longtemps de ça. La personne a presque refusé. Il m'a dit, non, mais je ne mérite pas ça. J'ai fait tellement bêtise. Non, je ne mérite pas ça. Mais pourquoi tu m'invites? Je dis, parce que je t'aime. C'est tout. Ce n'est pas lié à une performance quelconque. Ah oui, je connais tous tes défauts. Je connais encore les défauts que tu ne te connais pas. Alléluia. Vous savez, si nous avons ce changement de perspective, chacun de nous, nous allons vraiment être l'Église de Jésus. Nous allons être ces gens qui manifestent les uns vers les autres ce que Jésus a manifesté envers nous. Nous allons être ces gens dont la communion est agréable aux yeux du Père. Dieu n'est pas dans le mal, Dieu n'est pas dans les petites histoires. Tu n'es pas dans les commérages. Tu n'es pas dans ces choses. Tu n'es pas digne des enfants de Dieu. Il y a des choses qui ne devraient pas sortir de votre bouche. Et même quand quelqu'un vous appelle pour comme ça, mon frère, tu sais, ce genre de conversation n'est pas digne de moi. Mais tu te prends pour qui? Mais je suis née de Dieu. La vie de Christ est en moi. J'ai un appel extraordinaire d'aimer comme Jésus a aimé. Ça, non, ce n'est pas mon mandat sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a ces éléments essentiels qui font que nos vies sont agréables aux yeux de Dieu. Ce n'est pas tous mes jeûnes qui me rendent agréable aux yeux de Dieu. Il y a de ces endroits où les gens jeûnent, mais qu'est-ce qu'ils jeûnent? Ils jeûnent tellement, vous avez l'impression que vous n'êtes pas spirituel. Vous ne jeûnez que 2 jours par semaine? Quoi? Ah non, mais nous, c'est 5 jours. Hein? Ah non, on a été touché par la grâce. Ah ouais. Mais dès que nous rentrons à la maison, lorsque nous préparons la table de repas, la pièce de résistance, c'est le pasteur. Et nous en consommons avec avidité. Et quand nous avons terminé, nous rassemblons les os, et là c'est le dirigeant de cellule. Et nous croquons comme les Africains mangent des morceaux des os de poulet. Ah oui, non, c'est pas les vous savez, quand vous allez au restaurant, vous laissez les os sur la table. Mais quand vous êtes invité chez un Nigérian, faut pas le vexer. Prenez l'os et croquez. Alléluia. Parce que là, il sait que vous avez apprécié son poulet. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. Je devrais faire des photos des gens qui ont mangé du poulet chez moi. Amen. C'est très intéressant. On voit tout de suite les différentes cultures. Vous regardez leur assiette à la fin. Ouh, ouh. Ah là, franchement, tu as aimé le poulet. Merci. Pour grandir dans l'amour, nous devons déclarer notre amour. Nous devons faire des choses qui soutiennent l'amour et examiner notre conduite à la lumière de la parole de Dieu. Je vous encourage vivement à décider que vous allez être quelqu'un qui aime et que si vous avez manqué d'amour, vous allez vous en repentir. Vous n'allez pas faire « Oui, mais Seigneur, lui aussi, il m'a fait ça. » On dit en anglais « Two wrongs don't make a right. » Alléluia. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, tant pis. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait du mal que vous êtes en droit de faire du mal. La parole de Dieu nous dit clairement de ne pas rendre le mal pour le mal. D'ailleurs, ce n'est pas parce que vous êtes content qu'on vous a nécessairement fait du mal. Il y a des fois où vous n'êtes pas content parce que ça va à l'encontre de votre chair. Et parfois, c'est mon rôle en tant que pasteur de vous dire des choses que vous n'aimez pas, mais qui sont salutaires. Alléluia. Donc, si vous aimez votre pasteur, vous êtes en mesure de recevoir ces choses que vous n'aimez pas, mais qui sont salutaires. Vous recevez par amour. Et au bout d'une semaine, vous allez en avoir la révélation. Thank you, Jesus. Il en va de même pour les frères et sœurs. Ne vous laissez pas offenser facilement parce que les frères et sœurs vous disent. Parfois, il y a de la vérité là-dedans et qui va vous faire beaucoup de bien. Alléluia. Et au lieu de vous braquer, quoi? Écoutez, au lieu de passer la semaine à... Je ne parle plus à MC. Bénissez MC. Jusqu'à ce que vous ayez la révélation que, oh mais oui, ma sœur, vous finissez par comprendre qu'elle avait raison. Alors la fois, je viens de dire, mais je ne comprends pas pourquoi elle m'a serré si fort, elle n'a pas l'habitude de me serrer si fort. C'est qu'il a eu une révélation. Mais entre-temps, il a eu la vertu de marcher dans l'amour. Et ça, c'est puissant. Donc, dans 1 Corinthiens, nous allons conclure avec ça. Chapitre 13. Il nous dit au verset 4 que l'amour est patient. Il est plein de bonté. Imaginez si vous déversez ce genre de choses. Votre vie sera merveilleuse. Parce que vous serez rempli de passion, vous serez rempli de bonté. Ouh, c'est bon la bonté. Vous étonnez que les gens veulent se frotter contre vous. Amen. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. Alléluia! Il ne soupçonne point le mal. Il y a des gens qui sont toujours en train de soupçonner le mal. Vous leur dites bonjour, ils disent, pourquoi il me dit bonjour? Mais il me dit, pourquoi il me dit bonjour? Pourquoi il me dit bonjour? Ah non, 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 lui là, c'est pas innocent ce qu'il a dit. C'est pas innocent ce qu'il a dit. Il est en train de me dire que je suis mal habillée. Parce que j'ai un manteau, comme si c'était, il faisait froid, alors que c'est l'après-midi, déjà il fait chaud. Il est en train de me dire quelque chose. Non, non, non. Mais non, 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 si, c'est que tu ne le connais pas. Et nous soupçonnons le mal. Nous voyons du mal partout. Pourquoi elle a dit ça? Elle a dit qu'elle va t'appeler, pourquoi? Pour dire quoi? Attention! Il y a des gens, vous respirez, ils ne sont pas contents. Vous ne respirez pas. Pourquoi il retient son souffle? C'est dangereux. Il ne se réjouit point de l'injustice. Le nombre de gens qui se réjouissent quand les choses vont mal pour les autres. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alléluia. Thank you, Lord. L'amour ne périt jamais. Vous comprenez l'importance de ce que Jésus nous a dit quand il nous a dit d'aimer. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Mais l'amour ne périt jamais. Au ciel, nous n'allons plus parler en langue. Au ciel, nous n'aurons plus besoin de prophéties. Nous allons continuer à marcher dans l'amour. Alléluia. Rappelez-vous cela, Dieu est amour. Et s'il y a une chose que Dieu nous demande, une chose, c'est d'aimer. Aimer avec nos cœurs, aimer avec nos pensées, aimer avec nos paroles. Ce qui veut dire surveiller nos pensées, surveiller notre langue. Alléluia. Parfois, les gens parlent et vous êtes là, waouh. Comment? Surveiller notre langue. Que rien de ce que vous dites puisse amener l'amertume dans le cœur de quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Que vous ne soyez pas source de division ou de séparation. Alléluia. Et que lorsque les gens viennent parler, ils pensent du mal, que les paroles que vous dites soient plus à les encourager dans le sens du bien. Si nous sommes des gens qui aiment de façon radicale, nous allons aussi vivre l'amour de façon radicale. Est-ce que vous me suivez? Ce que nous semons, c'est ce que nous moissonnons. Qu'est-ce que vous moissonnez aujourd'hui? C'est ce que vous avez semé. Alléluia! C'est ce que vous avez semé. Je vais vous parler d'une personne. Il y a une personne qui l'appelait. Et cette personne était déjà venue ici. Et nous avait déjà bien critiqué. Après, cette personne commençait à l'appeler. Et là, c'était le tour d'une autre église où elle était allée après nous. Elle a commencé à les critiquer. Et elle a commencé à critiquer toutes les églises, tous les pasteurs. Enfin, finalement, on est tous mauvais. Et vous savez, qu'est-ce que ça fait lorsque vous êtes comme ça? C'est que les gens n'ont même pas envie de vous parler. Parce qu'ils se disent, quand elle aura fini, là, elle va prendre son téléphone, va appeler Jeannette et va me critiquer moi aussi. Parce que tous ne peuvent quand même pas être si mauvais. Surtout que toi-même, tu n'es pas un modèle de vertu. Alléluia. Que votre langue soit un outil de bénédiction. Que vos pensées soient dégagées d'amertume. Que vos pensées soient libres de critiques, de plaintes. L'amour est plein de bonté. Exercez-vous à la bonté. Bénissez ceux qui vous maudissent. Nous ne sommes pas comme des gens qui n'ont pas reçu Christ. Les gens qui n'ont pas reçu Christ, c'est œil pour œil et dent pour dent. Il m'a fait ça, ha ha, il va voir. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à fonctionner différemment. On parle mal de vous, peu importe. Vous n'êtes pas obligé de vous défendre. Vous allez vous défendre et si en vous défendant, vous allez finir par dire du mal des autres, ne vous défendez pas. Laissez Dieu vous défendre. La vengeance appartient à l'Éternel. Et quand nous fonctionnons de cette manière-là en tant qu'enfants de Dieu, Dieu continue à déverser son amour en nous. Pourquoi nous faisons toutes ces choses? Parce que nous voulons nous préserver, nous protéger, nous voulons être bien. Mais vous avez vu avec moi dans la parole de Dieu que le seul moyen d'être bien, réellement bien, c'est de demeurer dans l'amour de Jésus. Et comment est-ce qu'on demeure dans l'amour de Jésus? En aimant, en s'aimant les uns les autres. Alléluia. Remercions le Seigneur pour sa parole.